Ce matin, je voudrais commencer avec une série sur l'Église. J'ai à cœur d'en parler, de présenter et de parler un peu de l'Église, parce que j'aimerais bien que nous puissions tous ensemble comprendre de la même façon et aborder les mêmes enjeux sur l'Église. Nous voulons bâtir une Église pour notre Seigneur. Nous voulons faire quelque chose qui puisse être conforme à sa volonté. Et donc, mon travail a consisté, évidemment, à parcourir la parole de Dieu, à essayer de voir que dit l'Église, que dit le Seigneur, que dit la parole de Dieu à propos de l'Église. Et aussi, évidemment, j'ai dû recourir quand même à quelques éminences grises, puisque je n'ai pas la science infuse. Donc, il y a quand même d'autres hommes, d'autres théologiens que Dieu a aussi équipé spirituellement pour pouvoir éclairer sur cette question. Et c'est toute cette contribution que nous allons partager ensemble. Je ne vais pas aborder tout ce qui concerne l'Église. C'est impossible. Vous savez, le Nouveau Testament, il transpire de trois choses importantes. Évidemment, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est omniprésent. Ensuite, l'Église. Pourquoi? Parce que on parle de Jésus, on parle de l'Église. C'est partout dans le Nouveau Testament. Une troisième chose dans le Nouveau Testament, c'est nous, mais en tant que moteur de ce travail, de cette œuvre apostolique, l'œuvre d'envoi. Toutes ces lettres qu'on écrit, c'est pourquoi? C'est pour un peuple qui doit être mobilisé, qui doit être envoyé. Oh là là, ça va, je ne bouge pas beaucoup, je suis sage, parce que j'entends des petits bruits. Donc, c'est un peuple qui est motivé. Comment tu dis? Ici. Ah! Parce que il y a des clac, clac, clac. Voilà, tout va bien. C'est un peuple entier est mobilisé, est envoyé pour pouvoir aller proclamer l'Évangile. Ces choses sont tellement présentes dans le Nouveau Testament, dans tous les textes du Nouveau Testament. Ces préoccupations majeures sont tellement présentes que parler de l'Église, c'est difficile. Mais j'aimerais bien qu'on en parle, parce que aujourd'hui, l'Église est devenue quelque chose de complètement mal compris. Et d'ailleurs, les gens de l'extérieur prennent les gens qui rentrent dans l'Église pour des petits fantoches, des petits rêveurs, des gens qui sont d'une autre époque, d'un autre siècle. Et les chrétiens, vous avez déjà remarqué, quand ils viennent dans l'Église, ils sont comme ça. Ils rentrent dans l'Église furtivement, comme des petits voleurs. Il n'y a plus cette joie, cette explosion de bonheur. Je vais à la maison du Père, je vais rencontrer mes frères. Non. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a une pression extérieure du monde qui est là pour nous rappeler que vous êtes une bande de comiques, d'anachroniques, des gens complètement dépassés, des gens qui avaient un message qui a déjà été battu en brèche. Il a fallu le siècle des Lumières pour pouvoir tout écrasé, il n'y a plus rien, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Enfin, c'est eux qui le disent. J'affirme, Dieu existe et Dieu est vivant. Nous avons besoin aujourd'hui de restaurer l'Église. Nous avons aujourd'hui besoin que notre Église, que l'Église en général et notre Église en particulier puisse avoir un visage de Jésus. Un visage que les gens voient et puissent dire, waouh, il y a quelque chose là-bas. On aimerait bien y aller. On aimerait bien y participer. Vous êtes d'accord avec moi? Alors prions. Notre Père, notre Dieu, tu es notre fierté. Tu es l'objet de notre joie. Ce que tu as fait dans nos vies est incommensurable. Nous ne pouvons même pas calculer. Ni compter, ni pouvoir dire combien c'est merveilleux la paix retrouvée, la joie dans le cœur, la paix intérieure, mais dit une façon de vivre saine, propre, une manière de construire des relations humaines, une vie avec toi, et aussi une espérance vers le ciel, une vie de souffrance peut-être sur la terre que nous assumons pleinement, mais surtout une félicité éternelle. Tout cela est notre héritage et le cadeau que tu nous as apporté à travers le salut. Et nous voulons te servir, notre Dieu. Et nous voulons te servir à travers l'Église. Nous voulons te servir, notre Dieu, et t'être agréable en tout point de vue. Que cette parabole des talents soit une parabole où c'est nous qui sommes celui qui a reçu les 10 talents et qui peut fièrement dire, Seigneur, tu m'as donné ces talents et voici ces autres talents que je t'apporte. Notre Dieu, équipe-nous, aide-nous, ouvre nos yeux sur l'Église, que nous comprenions l'enjeu de l'Église et que cela nous serve et nous aide pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Deux textes. Matthieu chapitre 16, d'abord, nous allons découvrir ce que Jésus dit à propos de l'Église. Et puis ensuite, nous allons prendre un deuxième texte. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Nous gardons ce texte en mémoire, et nous allons prendre le deuxième. En Corinthiens, chapitre 12, du verset 12 au verset 14. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Alors, c'est très amusant ce matin, parce que On a parlé de ça avec les candidats au baptême et je constate que il y a aucun d'eux qui est là ce matin. C'est chouette, comme ça ils vont pas entendre deux fois la même chose. Enfin, bien que c'est deux fois mais différemment présenté. Ce matin, je voudrais vraiment aborder cette question: quelle église voulons-nous construire pour Jésus? J'ai dit que c'est une série que je voudrais introduire parce que je n'aborde pas toutes les questions sur l'Église aujourd'hui. Nous allons les aborder progressivement. Il y a des tas de choses à dire. Et ce matin, je voulais quand même mettre les bases. C'est quoi l'Église? C'est quel est le fondement qui fait le point de départ de l'Église? Alors, à la lumière de ce texte que nous venons de lire, il apparaît d'abord un fait. Un fait, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Mon Église. L'Église est la propriété de Jésus. C'est son chef-d'œuvre. L'Église appartient à Jésus. L'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église n'appartient pas aux anciens. L'Église n'appartient pas aux diacres, L'Église n'appartient pas aux différents responsables et animateurs de la vie de l'Église. L'Église appartient à Christ. Le pasteur, les anciens, les diacres, les différents responsables, les différents membres engagés dans l'Église et ceux qui dorment derrière le banc, enfin, il n'y a personne, hein. C'est pour ça que j'en profite pour en parler comme ça. Ceux qui dorment là derrière, au fond, eh bien, tous, nous sommes des employés. Ok? Nous sommes des salariés. Nous sommes des gens qui avons été engagés dans le travail, le patron étant le Seigneur Jésus-Christ. C'est important de le savoir ce matin. C'est important, avant d'aller plus loin, de savoir que il dit « Je bâtirai ». L'Église est une construction. Je ne vais pas parler de ce que tu m'as dit ce matin, toi. Hein. L'Église est une construction. Quand on parle de construction, il s'agit de penser à un architecte qui va faire le plan. Hein, Georges? Le plan, hein, c'est quelque chose, hein. Il s'agit de penser à un entrepreneur, le spécialiste qui sait comment on met les briques et les blocs. Il s'agit aussi de penser au maître d'ouvrage, celui qui commande. Jésus est le tout. Il est à la fois le maître d'ouvrage, il est l'entrepreneur et il est l'architecte. Je bâtirai mon église, cela veut dire que le chef est sur son chantier. Il est au boulot, il est là, dans l'œuvre de l'église. L'église ne se construit pas avec des individus, même les plus intelligents et les plus doués. L'église se construit avec le maître du chantier sur le terrain, dans l'église, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mes amis, j'aimerais que ce matin, nous prenions ça et que nous puissions y réfléchir quelques secondes. Notre Sauveur, le patron de l'Église, c'est Christ. Mais qui est Christ pour nous? Qui est-il pour nous? N'est-ce pas qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur? N'est-ce pas le Maître? N'est-ce pas lui qui disait à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et vous avez raison, je le suis !» Je suis votre maître. C'est qui un maître? N'est-ce pas celui dont on est soumis, devant lequel nous devons obéir, face auquel nous sommes soumis pour tout ce qu'il a à nous donner? N'est-ce pas le maître, celui qui donne l'enseignement, qui donne la ligne de conduite, qui montre le chemin, et nous, nous ne faisons que le suivre? C'est ça le maître, c'est ça le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui a droit de vie et de mort sur nous, qui peut disposer de nous comme des instruments, des simples instruments. Et pourtant, ce maître, ce Jésus, qui est notre Seigneur, je viens de le dire, il est aussi notre Sauveur. C'est celui qui nous a fait cadeau du salut. Nous qui étions condamnés, nous étions morts à nos péchés, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Mais il nous a fait ce cadeau de faire de nous des enfants de Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a fait de nous des enfants de Dieu. Par le salut, nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». Étranger hier, mais enfant aujourd'hui, bénéficiant de tous les droits. Et Dieu dit qu'il y a un héritage qui nous est réservé dans le ciel, à nous qui sommes étrangers. N'y a-t-il pas, mes amis, n'y a-t-il pas de raison de lui être reconnaissant? N'y a-t-il pas de raison de se dire, oh, quelqu'un qui fait ça pour moi, mais je vais être tout chaud pour lui. Vous êtes d'accord avec moi? Va, tout chaud. Je parle comme les jeunes. Hein. Je vois qu'il y a ma soeur qui lève la tête et dit, hein, tout chaud. Mais voilà. je parle comme les jeunes, je vais changer de langage. Je suis tout flamme pour lui. Je suis prêt à tout donner aussi au maximum pour lui parce qu'il m'a donné beaucoup aussi. Parce que je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. À moins que ce ne soit pas le cas. Mais si je suis reconnaissant à ce Dieu qui a fait beaucoup pour moi, alors ce matin, je peux commencer à réfléchir et à me poser la question. Comment est-ce que je travaille dans l'Église? Comment est-ce que je sers dans l'Église? Souvent, notre réflexe dans l'Église est de croire que l'Église est une entreprise humaine, avec le pasteur et les anciens comme les chefs. Alors, on se met à se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais ils foutent rien! Hein, Simon? Ils foutent rien! Et puis, les responsables eux-mêmes, ils sont là, avec les membres un peu difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds? On fait tout pour eux, et ils sont jamais reconnaissants, ils sont jamais contents. Et le Seigneur Jésus, le vrai patron, il regarde tout ça. Oh! Bon. Il regarde tout ça, il voit d'un côté les patrons qui sont en train de, mais c'est quoi ça? Et les travailleurs qui sont en train de dire, mais où? Et il se dit, attends, c'est qui le patron là-dedans? C'est qui le chef? À qui rend-on compte? Aux hommes ou à Christ? Ce matin, demandons pardon à Dieu. Moi le premier, parce que nous avons tendance à prendre l'Église comme une entreprise humaine. Les pasteurs disent « mon Église ». Les membres de l'Église disent « notre Église », mais dans le sens que c'est à nous, ça nous appartient à nous. Parce que moi, je donne les offrandes, je donne mes dîmes, je contribue dans cette Église-là. C'est mon Église, hein. Vous n'avez rien à me dire, hein. Et s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver là-bas dehors et qui commence à faire n'importe quoi, on a envie de le mettre à la porte parce que c'est pas son église ici, hein. Qu'il aille jouer dans l'église où il lui appartient, hein. Et s'il y a quelqu'un qui m'embête dans l'église, j'ai envie de lui dire, écoute, il y a d'autres églises, hein. Pars, allez, allez, attends. Nous faisons ça parce que nous pensons que l'église nous appartient. Ce matin, prenons toute la conscience que c'est Christ. Et quelle est la conséquence? Si c'est Jésus qui est le patron de l'Église, ça change tout. Ça change tout dans mon attitude dans l'Église. Ça change tout dans ma façon de servir. Je ne sers pas des hommes. Je sers le Seigneur. Est-ce que le Seigneur serait-il content que je serve en me plaignant? Est-ce que le Seigneur serait-il content que je serve en critiquant? Est-ce que le Seigneur serait-il content que je sabote son travail? Serait-il content que je puisse considérer avec indifférence son travail? Serait-il content que je ne travaille même pas, que je fasse rien du tout parce que... C'est le travail de Gaston Boula. Il fout rien, Gaston Boula. Et notre Dieu au ciel, il va voir tout ça et il va dire, je suis très content de mes enfants. Je suis heureux. Et nous, nous allons pouvoir dire, Seigneur, je te suis profondément reconnaissant. L'œuvre que tu as fait pour moi à la croix, oh Seigneur, j'ai envie de m'engager pour toi. Vous pensez que le Seigneur sera heureux là-bas, au ciel? Nous oublions une chose, mes amis, et je vais terminer avec ça, avant de rentrer dans la signification que je vois de l'Église. Nous oublions une chose, mes amis. Le Seigneur est un Dieu patient. C'est un Dieu merveilleux. Mais la Bible dit qu'il est aussi un feu dévorant. La Bible dit qu'il ne doit pas laisser les bêtises se perpétuer. Il a laissé le temps des juges, 450 ans. Il s'amusait, alternance des petits rois, Gédéon, Samson, Déborah, etc. 450 ans. Puis basta, stop, ça suffit maintenant. Avec Dieu, c'est comme ça. Alors profitons-en pendant que nous sommes dans ses bontés pour aimer l'Église, respecter le Seigneur Jésus dans l'Église, travailler pour lui en étant sérieux, non pas avec nos frères, oui, bien sûr, c'est la conséquence, mais en étant sérieux avec Dieu d'abord. je suis régulier dans les activités de l'Église parce que j'aime le Seigneur Jésus, parce que je le crains, parce que je le respecte, parce que je veux lui donner la gloire, parce que c'est lui le patron, parce que c'est lui qui sera content ou pas de moi. Vous voyez, quand on commence avec l'Église, on peut aller très loin dans les considérations. Mais je voulais juste m'arrêter sur cette question, mais on va peut-être introduire la question de c'est quoi l'Église. Peut-être juste en partant du mot, Jésus dit « je bâtirai mon Église ». C'est quoi « Église » dans le contexte de ce texte? Il utilise un mot grec qui veut dire « ecclésia ». Ah, miwa, un peu de grec, ça fait du bien, hein? C'est une étudiante en grec, alors elle étudie le grec, alors c'est très amusant. Mais elle a pris beaucoup de risques, amis. Ouais, elle étudie le grec et le hébreu en même temps. Moi, j'ai fait les deux langues aussi. Je dois vous dire que faire le grec et le hébreu en même temps, on transpire énormément. Hein. Accroche-toi, peut-être que tu seras notre meilleur exégète dans quelques années. Le mot « église » vient d'un mot, un substantif grec qui veut dire « ecclésia ». Et « ecclésia » veut dire « assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux ». Le mot « ecclésia », c'est ce qui a donné en français le mot « ecclésiastique ». Un ecclésiastique, c'est quelqu'un qui fait partie d'un clergé, c'est-à-dire d'un ordre religieux. Okay? Par exemple, on pourrait dire, mais non, on pourrait dire qu'un pasteur, c'est un ecclésiastique. Mais bon, on n'a pas la même conception que les catholiques, par exemple. Et pourquoi on dit « assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux » ? Parce qu'en fait, le verbe du mot « ecclésia », c'est un verbe qui fait partie d'un... C'est un verbe qui veut dire « appeler hors d'eux ». Donc, l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Ne soyez pas surpris que vous entendiez que le mot « église » n'est pas un mot seulement pour les chrétiens, pour le contexte religieux. Le mot « église » peut être un mot qu'on peut utiliser dans tous les contextes. Parce que l'assemblée dont on parle ici, c'est une assemblée grecque qu'on convoquait pour des réunions, pour décider sur la manière dont la ville va fonctionner. Alors, tous ces gens, ils étaient appelés hors de leurs activités, hors de leur maison, hors des lieux habituels où ils sont, pour venir s'asseoir et pouvoir discuter sur la manière dont on va gérer la ville. Des hommes libres en grec, en Grèce. Et donc, nous, Jésus va faire une véritable révolution en invoquant ce mot en Matthieu, chapitre 16, verset 18. C'est la première fois que Jésus invoque le mot. Et il lui donne une portée totalement différente. C'est quelque chose qui n'avait pas existé auparavant et quelque chose qui n'existera plus autrement. Ce que Jésus va dire à travers le mot « Église », c'est quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau. L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde, c'est-à-dire des hommes et des femmes que Jésus va retirer du monde, qu'il va appeler en dehors du monde pour venir constituer une communauté. Il n'appelle pas hors d'eux, juste pour le plaisir d'être des petits singletons, qui sont des petits éléments plic-ploc. Il appelle hors d'eux pour les rassembler, pour constituer un peuple. C'est le projet de Dieu. Appeler hors d'eux pour qu'ils puissent les mettre à part. Ils puissent les mettre à part comme un peuple saint, un peuple consacré à lui, un peuple mis à part. Est-ce que tu peux mettre maintenant Tite chapitre 2, le verset 14? Tite 2, hein? Voilà, vous avez vu ça? Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi? Deux choses. Vous avez remarqué ça? Deux choses. Un, pour nous racheter. de toute iniquité. Vous avez vu ça? Deux, et qui va ensemble avec le premier, et se faire un peuple qui lui appartienne. Comment? Purifié par qui? Par lui. Et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà pourquoi nous sommes sauvés et appelés. Premièrement, Dieu nous appelle pour être rachetés, pour être sauvés. Le salut, c'est le cadeau que Dieu nous donne. Il nous le donne et nous fait de nous ses enfants. Nous devenons ses enfants, les membres de sa famille. La deuxième chose, et qui est liée à celle-là, nous sommes appelés pour constituer un peuple. Un peuple, pas n'importe quel peuple, un peuple mis à part pour Dieu. Un peuple qui lui appartient. Comment appelle-t-on quelqu'un qui appartient à un autre? Un esclave. Mais nous sommes des esclaves volontaires. Ce n'est pas les esclaves mains et poings liés avec des coups de pied. Non, nous sommes des esclaves volontaires. Nous avons compris que de cet esclavage-là, c'est nous qui sommes gagnants. C'est nous qui gagnons. Un peuple qui lui appartienne. Nous sommes la propriété de Dieu. Exactement avec cette image du berger. Le berger qui a ses brebis. Les brebis qui lui appartiennent. Mais vous allez remarquer que ce berger, qui a des brebis, si une seule brebis se perdait, que fait le berger? Il laisse le 99 et il va chercher la centième qui est perdue. Ça, c'est le berger selon Jésus. Et nous appartenons à Jésus qui a cette attitude-là, qui nous donne de la valeur, pour qui chacun de nous est important, a de la valeur, compte pour lui. Il est prêt à déployer toute sa puissance pour chacun d'entre nous. Un peuple qui lui appartient, un peuple que lui a purifié. Purifié, ça veut dire il a enlevé les mélanges entre la chair et l'esprit, entre le monde et Dieu, ces choses que nous savons si bien mélanger, ces compromis, le péché, et nous lave complètement dans son sang. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Nous sommes devenus saints. Et Dieu nous motive. Jean chapitre 17. Dieu nous motive comme des envoyés. C'est ce que Jésus dit, il fait sa prière, il dit, de même que toi tu m'as envoyé Père, moi aussi je les envoie. Vous avez remarqué une chose? D'entrée de jeu, la définition de l'Église implique automatiquement que c'est une communauté. C'est un rassemblement, c'est un peuple. Des hommes et des femmes qui vont œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ces hommes, vous avez remarqué, selon ce texte, c'est des rachetés. C'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau. Des gens qui sont passés par la repentance. Des gens qui sont passés par la repentance et qui sont nés de nouveau. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus et qui se sont consacrés pour lui. L'Église est donc l'assemblée des saints. Pas au sens catholique du mot, mais au sens protestant du mot. Les saints au sens catholique, c'est les personnes qui sont mortes et que l'on va élever à un niveau de référence et parfois on peut les prier. Mais saints au sens biblique, au sens de ce que nous lisons dans la Bible, ce sont des gens que Dieu a mis à part. Il a mis à part parce qu'ils ont donné leur vie à Christ et ils ont accepté de marcher avec Christ et donc de se détacher du monde. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent en dehors du monde, ils sont toujours dans le monde, mais ils ne sont plus dans la logique du monde. Est-ce pour ça que l'Église devrait exclure les personnes qui viennent, qui sont à la recherche de Dieu, mais qui ne sont pas converties? Est-ce pour ça? Non! Non! L'Église a une porte ouverte, comme on fera ça dimanche prochain, mais la porte est toujours ouverte. La porte est ouverte pour tous. Toutes les personnes qui veulent venir dans l'Église, s'asseoir, écouter, aucun problème. Alors vous voyez que tout d'un coup, là, nous avons dans le paysage de l'Église deux sortes de gens. Ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui constituent l'Église, et ceux qui sont en chemin, en route, en recherche, et parfois pas du tout. Cette distinction sera importante plus tard pour les autres séries que nous allons exposer. Ce qui est frappant avec... Oh là là, oh, bon... bon, est-ce que vous avez vraiment faim? Je négocie déjà la diable, parce que... Bon... Tu vas devoir ouvrir quand même, hein, parce qu'on va avancer. Hein. Bon, ce qui est frappant avec le mot « chef de l'Église », lorsqu'on parle de Jésus comme chef de l'Église, c'est que le mot « chef » en grec veut dire « képhalé ». Et « képhalé », ça veut dire « tête ». C'est marrant, hein ?« Chef, tête ». Il y a un très beau mot pour ça, c'est le « képi ». Nous, en Afrique, on connaît ça avec le colon qui mettait son képi, là. Ce képi symbolisait non seulement il cachait sa tête contre le soleil, parce que le soleil africain, il est quand même un peu dur dans l'affaire, mais aussi ce képi qu'il portait signifiait son niveau de commandement. Celui qui avait le képi était le chef de tous les autres. Les autres avaient des bérets, je ne sais plus quelles sont les autres formes de chapeaux qu'on met sur la tête, mais celui qui avait le képi, c'était le chef. Celui-là, tu devais tout de suite aller chez lui et dire « chef », parce que lui, c'est le chef. Le mot « chef » est assimilé avec le mot « tête ». Et ce n'est pas surprenant. Je vais vous donner deux textes bibliques qui vont montrer cela. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Bien sûr, il est question du mari. Hein? Donc, ce n'est pas la guerre aujourd'hui, même si c'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps. Hein? Nous allons juste piquer notre idée, hein. Alors que les maris ne commencent pas à régler leur compte avec leur femme, hein. Doucement, hein. Je sais bien qu'il y aura des maris qui vont commencer à dire à la femme, hey, t'as vu, je suis ton chef, hein. Non. Écoutez, vous allez régler vos histoires après à la maison. Moi, je vais juste prendre dans ce texte la référence de Jésus comme étant le chef. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Vous avez vu le jeu de mots? Chef de l'Église qui est son corps. Il aurait pu dire comme la tête de l'Église, hein, qui est son corps. Deuxième texte, Colossiens chapitre 1, verset 17. Oh, voilà que moi j'ai fait comme Simon, hein, mais non. Je prends une référence, mais je laisse le reste. Donc je t'ai donné juste que ça, hein. Alors, Colossiens chapitre 1, il y a quelque chose à fond, hein. Alors, Colossiens. Alors, donc, je vais peut-être le lire, hein, ne te tracasse pas. C'est le verset 17 et 18, hein. Oui, il faut mieux remonter au verset 18. Car en lui, tout a été créé, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Non. Prends-moi toujours le Colossiens. Ah! Le verset 18 est là. C'est bien, c'est chouette. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous avez vu ça? Il est la tête du corps de l'Église. Même idée, le chef. Et cette idée du corps, c'est peut-être l'image la plus forte de l'Église. l'Église comme le corps du Christ. Le corps dont Christ est la tête. C'est cette façon-là que l'Église est présentée à travers le texte que nous avons lu en deuxième lieu, 1 Corinthiens 12. Nous avons lu cela. Nous avons vu cette idée du corps. Les membres qui le constituent, l'ensemble des membres forment un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Église en tant que le corps du Christ. Église en tant que corps du Christ. Je vais peut-être juste introduire ça et on va continuer. De toute façon, c'est une série, hein. Donc on peut s'arrêter là où on veut. Hein. On va s'arrêter à ce niveau ici. Église en tant que corps du Christ. Nous avons ce texte de 1 Corinthiens 12. Tu peux peut-être le remettre juste pour que nous puissions avoir ça devant nos yeux. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Église, corps du Christ. Avant peut-être d'aller plus loin avec ce texte, j'aimerais peut-être juste relever deux choses intéressantes là-dedans. La première chose, c'est l'unité du corps. Et la deuxième chose, c'est sa diversité. Vous voyez ? Un seul corps, unité, plusieurs membres, diversité. Ok ? Peut-être qu'on va moins parler de diversité ce matin, puisque ça reviendra encore dans d'autres choses qu'on aura à parler, mais j'aimerais peut-être rapidement seulement brosser rapidement la question de l'unité. L'unité du corps du Christ. Si le Christ est la tête du corps, ce corps est uni. C'est-à-dire, les membres sont reliés les uns les autres pour former un ensemble. Les membres sont importants les uns pour les autres. Il y a une relation entre les membres, une connexion. L'image qui est utilisée est donc celle de l'être humain, le corps humain. Et la physiologie, disait mon professeur de physiologie humaine à l'université, il disait, le corps humain, c'est la plus belle merveille qui existe. Parce que c'est quelque chose d'incroyablement bien fait. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est pour imiter un peu le corps humain. Deux choses fondent l'unité du corps. Deux acteurs. Premier acteur, le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième acteur, le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est la tête du corps. Comment reconnaît-on un corps? Comment puis-je reconnaître la tête, le corps de Simon? C'est pas de dos, hein. Si je le vois de dos, je vais dire, waouh, quel beau garçon, grand, fort et tout ça. Mais je saurais pas qu'il est barbu. Je saurais pas d'autre chose de lui, d'être très intéressant. Enfin, Vanessa apprécierait encore plus. Mais si je peux reconnaître Simon, c'est par son visage. Je dis, ah! C'est Simon. Ah, c'est Carmen. Ah, c'est Esther. Parce que je vois le visage. C'est pas le corps qui est visible, c'est le visage. L'Église est unie autour de la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est le point central de l'Église. Nous allons prendre le texte d'Éphésiens chapitre 4, verset 16. Et nous allons voir cela. C'est de lui, donc du Seigneur Jésus-Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. S'édifie lui-même. Savez-vous que le corps humain est un corps qui fonctionne par lui-même? Les mécanismes humains, physiologiques de l'humain, lui permettent de pouvoir travailler par lui-même. La preuve, quand vous dormez, les cellules anciennes, vieilles se changent, des nouvelles cellules se mettent à la place, il y a un ressourcement. Vous ne savez même pas tout ça. Quand on tombe malade, il y a toute une bagarre, toute une armée qui se met en place face à la maladie. C'est ce que l'apôtre dit ici. Jésus-Christ, c'est de lui que tout prend sens, que tout fonctionne. Il y a son assistance, il y a son relais à travers l'ensemble des membres du corps. C'est lui qui donne une coordination, un ordre, et qui emmène le corps à être quelque chose de solide. Voyez, il y a bien sûr l'accroissement, le développement, avec la participation de chacun, selon la force que convient à chacune de ses parties. Chacun avance, donne sa contribution. Mais cette contribution, elle est liée au fait que c'est Jésus qui coordonne tout, qui emmène tout. Mes amis, donc ce matin, nous devons prendre conscience de cette idée que si Christ n'est pas celui qui dirige une église, alors l'église, elle va aller dans tous les sens. Elle va cesser d'être un organisme pour devenir une organisation. Et c'est ce que beaucoup d'églises sont. Très bien organisées. On fait tout le 4 juillet, le 5 mai, le 6. Il y a toute une programmation d'activités, des choses. Il faut être à l'heure, il faut faire ceci. On commence à tenir compte des choses qui sont loin d'être spirituelles et qui ne mettent pas Jésus dans le coup. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisation? On commence à regarder aux hommes et on commence à coter les hommes et on commence à regarder les performances des hommes et on oublie Jésus. On oublie la croix. On oublie l'œuvre de Dieu. On oublie tout le reste. Nous allons nous arrêter ce matin ici. Je reviendrai donc sur les considérations sur l'unité et nous allons avancer avec les autres questions que j'avais préparées. Nous allons nous arrêter ici. Qu'est-ce que, juste pour répondre à la question avant de finir, quelle église voulons-nous construire? C'était ça la question de départ. La réponse à laquelle je me suis attaché à donner était une réponse qui est fondée sur la Bible. Je ne veux pas trouver des réponses en dehors de la Bible. Je ne veux pas inventer une église avec mon intelligence. Ni parce que j'ai consulté des gens super intelligents qui ont bien réussi leur ministère d'église et que. Non, je veux fonder ma réponse sur la parole de Dieu. Et que dit la Bible? Première chose, c'est Jésus qui est le patron de l'église. À méditer sérieusement. Deuxième chose, l'église, c'est l'assemblée des saints. Des gens mis à part, que Dieu a lui-même appelé hors du monde. Il découle de cette idée qu'automatiquement, une église est une communauté. Je ne peux pas venir dans l'église et jouer solo. Je ne peux pas venir dans l'église et me considérer comme un individu qui pense ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut, qui fait comme il veut. Je ne peux que venir dans une communauté en sachant que celui que je regarde à gauche, celui que je regarde à droite, celui que je regarde devant moi, que je regarde derrière moi, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, pour autant qu'ils aient fait la même expérience du salut que moi. Et à ce moment-là, ça change tout. Mon lien avec eux change tout. Nous sommes interdépendants. La force de l'un dans la faiblesse de l'autre est importante. La faiblesse de l'un a besoin de la force de l'autre. Nous sommes là pour nous tenir, nous aimer et aller de l'avant. Découle de ça une règle évidente, la caractéristique de l'Église, c'est qu'elle est une Ça veut dire que l'unité est une caractéristique naturelle de l'Église. Je vais vous dire une chose juste avant de terminer et on reprendra avec ça. Mes amis, l'unité dans l'Église, ce n'est pas quelque chose que nous devons créer. Elle existe déjà. Dieu est un. Il y a combien de personnes en Dieu? N'ayez pas peur, dites-le. 3 personnes en Dieu, ok? Mais on parle de la Trinité, c'est-à-dire de l'unité des 3 personnes. Moi, je vais conserver l'unité. Je vais maintenir l'unité. Je vais travailler dans l'unité. Je vais rechercher à maintenir l'unité qui existe déjà dans la personne de Dieu et que l'unité que Dieu met dans son Église. Nous sommes un peuple pour vivre dans l'unité. Et c'est l'unité, c'est par l'unité que le monde saura que nous sommes des chrétiens. Prions. Seigneur notre Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Tu as mis tous les moyens pour que ton Église ait ton visage. Que lorsque les gens vont regarder le corps, ils vont l'identifier par ton visage, le visage de Jésus-Christ. Aide-nous à travailler dans ce sens-là, à être cela, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.